C'est l'heure du carnet nomade. Colette Fellous à la réalisation, Vincent Deck. Aujourd'hui, la vie en jeu, J-E. Dans ce carnet nomade intitulé en effet « La vie en jeu », c'est principalement avec Philippe Forest que nous suivrons l'expérience littéraire qu'il a faite à partir du roman de James Joyce, Ulysse, ce livre unique dans la littérature par sa forme, par sa phrase, par son invention, un livre qui raconte le récit d'une seule journée, celle du 16 juin 1904 à Dublin. Et comme chaque livre lu ou écrit est un recommencement, la relecture de ce roman par Philippe Forest a été pour lui, pendant un an, l'occasion de s'y pencher, comme au-dessus d'un miroir, et de s'y réfléchir, et de réfléchir pour nous et avec nous. Mais j'accueillerai également dans ce carnet Isabelle Grel, qui dirige la collection Le Livre, la vie, chez Cécile Defaux, là où le livre de Philippe Forest vient de paraître, sous le titre « Beaucoup de jours », d'après Ulysse de James Joyce, Camille Laurence, qui a participé au dernier numéro de la NRF, « Je et moi », Chloé Delhomme, qui nous lira un extrait de son roman à paraître en janvier, Chloé que j'avais rencontrée à la Villa Médicis, il y a 2 mois, la villa où elle est pensionnaire. Et enfin, Jean-Philippe Rossignol, qui vient de publier « Vie électrique », 30 textes pour 30 jours, des jours faits de lecture, de voyage et d'amitié. La vie en jeu, là aussi. Pour ouvrir ce carnet, voici une page du livre de Philippe Forest, qui sera mon premier invité. La patience des grands livres est infinie. On les lit et on oublie qu'ils contiennent par avance l'histoire de votre propre vie, attendant que pour chacun vienne le moment où la réalité vérifie la fiction afin que la prophétie s'accomplisse. Ainsi, et en ce qui me concerne, il a fallu que j'écrive 5 romans pour pouvoir enfin comprendre celui de Joyce. Dans l'ordre, et depuis 15 ans désormais, en plus des essais qui comprennent autant L'enfant éternel, Toute la nuit, Sarinagara, Le nouvel amour et Le siècle des nuages, ce dernier livre, consacré en apparence à mon père, abattu soudainement par une crise cardiaque en 1998, mais reprenant le récit inchangé que poursuivaient tous les autres, introduisant ainsi à l'épreuve que raconte le premier la mort de ma fille unique, des suites du cancer, un ostéosarcome 2 ans auparavant. Sans bien entendu, et contrairement à ce qu'ont pu penser certains lecteurs, bien ou mal intentionnés, que le second événement, la mort du père, vienne se substituer au premier, la mort de ma fille, comme s'il avait le pouvoir étrange de l'effacer ou bien de le réparer.
Inséparable, mais séparé. Insoutenable, mais soutenu. Intouchable, mais touché. Incontournable, mais contourné.
Ouvrons ce carnet nomade avec vous, Philippe Forest, et avec cette belle expérience que vous avez faite avec ce livre qui s'appelle « Beaucoup de jours » d'après Ulysse de James Joyce dans la collection, la nouvelle collection dirigée par Isabelle Grel aux éditions Cécile Defaux et qui s'appelle « Le livre, la vie ». Donc l'enjeu était vraiment très important et très beau, très stimulant en tout cas, de prendre une œuvre et de vivre avec cette œuvre pendant 1 an.
Voilà, c'est le principe de la collection, choisir un livre, un classique, mais enfin la notion de classique elle-même est assez floue et fluctuante, et à partir de là, vivre dans la compagnie de ce classique pendant 1 an. Ça peut prendre la forme d'un journal, moi je suis un peu réfractaire à la forme journal, donc du coup j'ai tout bêtement suivi l'ordre du livre, mais dans chacun des chapitres, il y a une sorte d'alternance qui se met en place entre la lecture du livre de Joyce et l'évocation de tout ce que ce livre signifie de manière plus intime pour moi.
Oui, c'est vraiment un livre qui prend la forme d'une étoile, hein, qui rayonne de partout. Et vous ouvrez le livre à la fois de Joyce, mais aussi votre propre livre. Et si j'ai intitulé ce carnet nomade « La vie en jeu », en J-E, J-E. On voit que dans ce livre, c'est à la fois votre lecture de Joyce, qui est en jeu J-E-U, et aussi tout votre... On retrouve presque tous vos livres dans Ulysse, miraculeusement.
Oui, parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce livre. C'est un roman total qui essaye de faire tenir tout le temps de l'histoire et tout le temps de la vie dans un seul ouvrage dont on sait qu'il est censé se dérouler au cours d'une seule journée, le 16 juin 1904. Donc pour Joyce, il s'agissait déjà... À Dublin, voilà. Il s'agissait déjà de faire tenir tout ce temps-là à l'intérieur de ce temps des 18 heures qui sépare le premier chapitre du roman du dernier. Donc après, j'avais qu'à me glisser dans cette forme-là pour faire tenir à mon tour tout le temps de ma propre vie dans l'espace que Joyce avait lui-même défini.
Oui, et puis ce livre qui, s'il n'avait pas eu ce titre, Ulysse, on n'aurait pas compris d'emblée qu'il faisait référence lui-même à l'Odyssée.
Oui, c'est ce qui obstrue un peu la lecture, parce que la plupart des gens qui n'ont pas lu Ulysse, et c'est beaucoup de gens, parce qu'en fait c'est un livre très célèbre, mais finalement assez peu lu, j'ai eu la surprise de le vérifier, et bien donc... Ce qui obstrue la lecture du livre en général, c'est justement la référence mythologique. C'est-à-dire, c'est vrai que Joyce prend l'Odyssée d'Homère et qu'il transpose l'Odyssée d'Homère pour en proposer une sorte de version romanesque, triviale, donc qui se déroule à Dublin le 16 juin 1904 et qui met en scène des personnages romanesques comme Léopold Bloom, Stephen Dedalus, Molly Bloom, et qui sont comme les équivalents modernes, donc d'Ulysse, de Télémaque et de Pénélope. Donc il y a bien cette transposition qui s'effectue, mais en fait, ça n'est pas si important que ça.
Oui, voilà. Voilà.
Et il faut parfois oublier toutes ces références érudites sur lesquelles les universitaires et les critiques se sont un peu trop focalisés, pour lire ce livre tel qu'il est, c'est-à-dire un roman, moi, je trouve très humain et finalement pas si compliqué que ça, malgré les préjugés qu'on a à son endroit.
C'est vraiment une lecture aussi de jeunesse, parce que c'est un livre qui promet tout, en fait, qui promet l'écriture d'un livre, la vie aussi, comment vivre sa vie d'une autre façon. Et puis cette phrase qu'a Ulysse, qui est exceptionnelle, qui a révolutionné le roman, c'est vraiment le temps de la jeunesse. Hein. On a envie de le lire jeune et puis après, bien sûr, de le relire toute la vie.
Voilà, c'est pour ça que c'est aussi une expérience sur le temps dans ce sens-là. C'est un livre que j'ai lu jeune. Je pense que j'ai dû lire ce livre adolescent. Et je le relis maintenant, donc bien des années après, alors que j'ai complètement basculé, enfin c'est le sentiment que j'en ai en tout cas, sur l'autre versant de ma propre vie. Et Ulysse de Joyce se prête vraiment très bien à cette expérience-là, parce qu'il y a deux personnages principaux, le personnage d'un jeune homme, donc Stephen Dedalus, qui est un jeune poète, et le personnage d'un homme mûr, donc Léopold Bloom. Et quand j'ai lu, c'est ce que je raconte dans le livre, quand j'ai lu pour la première fois le livre, j'étais plus jeune que le plus jeune des deux personnages, oui. Que Stephen Dedalus. Et maintenant que je le relis, enfin quand j'ai commencé à le relire, c'est-à-dire l'année dernière, j'avais 48 ans, c'est-à-dire je l'ai réalisé, ça m'a donné un coup de vieux, j'ai 10 ans de plus que Léopold Bloom dans le roman, alors que moi je m'imaginais que Léopold Bloom était un vieil homme, voilà,
ouais.
C'est ça. Et du coup je relis le livre, mais du point de vue de ce second personnage, et ça change tout bien sûr.
Alors le livre s'ouvre face à l'océan, à la mer, au sommet de la tour Martello. Vous êtes allé, je suppose.
Oui, c'était un des...
Faire tout l'itinéraire de...
Tout l'itinéraire, non, parce que je n'ai jamais pu le faire en entier. Mais oui. En tout cas, je suis allé du côté de Sandy Mount, c'est-à-dire sur la côte où se trouve cette tour, qui est aujourd'hui transformée en un musée James Joyce. Parmi les hauts lieux qu'on peut visiter encore aujourd'hui, il y a surtout la Bibliothèque nationale. C'est là où se déroule le grand discours de Stephen Dedalus sur Shakespeare. La dernière fois que j'y suis allé, il y a le bar de l'Ormond Hotel qui existe encore, où se passe l'épisode des sirènes, mais il était fermé pour réfection. Et puis bon, il y a les rues elles-mêmes. Et c'est une ville qui n'a pas tant changé que ça, donc on peut avoir l'illusion d'être un personnage du roman soi-même quand on s'y promène.
Oui, j'aime bien d'ailleurs quand vous dites qu'un livre ne change pas, qu'un livre est un miroir. En fait, un roman est un miroir et c'est seulement celui qui lit et qui le relit qui change, qui voit son visage changer. Mais lui, c'est un point fixe, le roman miroir.
Voilà, ça n'est pas un miroir qu'on promène le long d'un chemin, mais c'est un miroir qui reste immobile et c'est le monde qui passe devant lui et soi-même à l'intérieur du monde.
Vous écrivez « La patience des grands livres est infinie. On les lit et on oublie qu'ils contiennent par avance l'histoire de votre propre vie, attendant que pour chacun vienne le moment où la réalité vérifie la fiction afin que la prophétie s'accomplisse. » C'est toujours un aller-retour hein, entre le présent, le passé, l'avenir. Et tout peut être contenu dans un livre. Et c'est très, très beau de vous voir justement lire Ulysse et retrouver comme par surprise, comme si vous rencontriez des morceaux de vous-même que vous ne vous attendiez pas trouver là à la lecture du livre. Comme enseigner, comme évidemment après le deuil. Il y a toutes ces rencontres en fait entre vous et le livre.
Oui, je crois que c'est vrai de tous les livres, mais particulièrement de celui-là. C'est comme un mouvement de vase communicant, aurait dit Breton, entre le livre et la vie, puisque c'est le titre de la collection, entre le rêve et la réalité. Et cette dimension prophétique, elle m'a surtout frappé, oui, concernant cette question du deuil, puisque, comme je le raconte dans le livre, j'avais complètement oublié que Ulysse était aussi un livre sur le deuil parental. Il y a beaucoup question de Shakespeare, dont peu de gens savent qu'il a perdu son fils unique, qui s'appelait Hamnet. Et Joyce développe une interprétation qui semble aller de soi, mais que je crois il a été le seul, en tout cas le premier à développer, à savoir que Hamnet serait l'origine de Hamlet. Mmh. Et donc il y a cette histoire de deuil là, la mort du fils unique de Shakespeare. Et puis Bloom lui-même a perdu à la naissance un petit garçon, Rudy, qui aurait été son fils unique. Et donc toute cette méditation sur le deuil, elle est l'une des dimensions essentielles du roman. Et moi, bien sûr, j'ai été amené à y prêter attention, puisque c'est le sujet de tous mes romans jusqu'à présent. Donc, c'est encore un effet de miroir.
Oui, et c'est une expérience qui, là aussi, qui est en étoile et qui irradie, qui donne en même temps la force d'écrire, qui vous a donné la force d'écrire.
Pour moi, c'est le principe d'où tout est parti.
Plus près, on peut dire. Mmh. Plus près et plus vrai.
Oui, oui, c'est le principe pour moi d'où est parti l'ensemble de ce que j'ai écrit. Et chez Joyce, c'est un peu différent parce qu'il a vécu une expérience comparable à certains égards, mais très différente, puisque sa femme a perdu un
oui, l'enfant
enfant,
n'était pas né, le bébé n'était pas né.
Une fausse couche. Mais ça semble avoir beaucoup frappé Joyce, et donc c'est sans doute ce fantôme d'enfant-là qui traverse tout le roman, qui apparaît notamment à la fin du chapitre Circé, lorsque Bloom voit apparaître le fantôme de ce que son fils aurait pu devenir. Et il y a une expression que Joyce utilise qui est très particulière. Il compare ce fantôme d'enfant à ce qu'on appelle en anglais un changeling, un enfant échangé, comme dans les vieilles légendes celtiques. Et je rapproche ça de la figure de Peter Pan. Peter Pan est né en 1904, c'est-à-dire l'année où est censé se dérouler Ulysse. Et ça me renvoie donc du coup à mon premier roman, L'Enfant éternel, dans lequel j'avais construit tout le récit de deuil que je proposais autour de la figure de Peter Pan. Donc il y a plein d'allers-retours comme ça, inattendus, à partir duquel, oui, l'image que vous avez utilisée est tout à fait belle. La lecture se développe en étoile dans toutes les directions à la fois.
Et vous retrouvez aussi à un moment dans ce chapitre un rêve que vous faisiez enfant, où vous n'étiez pas vraiment mort, mais qu'il y avait aussi un fantôme, que vous étiez presque le fantôme de vous-même. Vous aviez peur qu'on ne vous reconnaisse pas.
Oui, et ça, c'est un rêve que j'ai mis aussi au début de Sarina Gara. Donc, on peut lire le livre, je pense, j'espère, simplement pour Joyce. Je dis dans le livre, sur le mode de la plaisanterie, que c'est aussi, j'espère, une sorte d'Ulysse pour les nuls. Mais en même temps, c'est d'une certaine manière, j'allais dire, une sorte de digest de mes propres romans.
Ouais.
Pour les gens qui les ont lus et que ça intéresse, ils peuvent faire comme moi je l'ai fait, ce va-et-vient entre l'essai qui paraît maintenant et les romans qui ont paru il y a quelques années.
Avec aussi cette tentation de l'Orient qu'il y a dans le livre, et puis vous-même aussi, l'Orient qui a été le Japon pour vous, donc dans Sarina Gara, et ce voyage hein, du personnage qui cherche toujours l'Est hein, dans Ulysse.
Oui, parce que Bloom est juif, et c'est quand même une particularité aussi. D'autant plus frappante que, semble-t-il, la communauté juive est très peu importante en Irlande, ou en tout cas elle l'était à l'époque. Il y a un personnage qui fait la plaisanterie suivante, il demande « Savez-vous pourquoi les juifs n'ont jamais été persécutés en Irlande ?» La réponse, c'est parce qu'on ne les a jamais laissés entrer. Donc apparemment, il y a quelque chose de très spécifique à la situation de Bloom dans le livre. Il a donc cette fascination pour un Orient qu'il n'a pas connu, pour la Terre promise, et en même temps, il est en butte à l'antisémitisme. l'antisémitisme, qui est d'autant plus virulent, semble-t-il, en Irlande, qu'il a moins de raison de l'être, si j'ose dire, c'est tant que l'antisémitisme n'a jamais de raison d'être, mais il y a très peu de juifs, et pourtant, le préjugé est très, très violent. Et ça, ça fait aussi une partie de la dimension politique du roman.
Et donc ça, c'est dans le chapitre 5, hein, c'est ça, sur le...
Sur les lotophages, voilà, hein, les mangeurs lotophages. De lotus. L'Orient est comparé à la terre des mangeurs de lotus, celle où l'on oublie toutes les peines et tous les chagrins. Ouais. En même temps, Bloom sait bien que c'est une illusion, mais c'est une illusion comme ça qui l'entraîne vers l'Est, c'est-à-dire vers la mer, une fois encore.
Oui, c'est ça, dans les lotophages, vous citez d'ailleurs Joyce, « Quelque part en Orient, la pointe du jour, se mettre en route à l'aube, faire le tour de la terre, en allant en avant du soleil, lui ravir une journée, toujours continuer ainsi, ne jamais vieillir d'un jour, techniquement. »
Parce qu'une des grandes obsessions du livre, c'est la question de l'origine.
Oui.
Comme si c'était en se mettant en route vers une origine fantasmée qu'on pouvait échapper à la mort. Il y a toute une méditation comme ça sur la naissance et la mort, sur le sexe, qui occupe de façon très différente l'esprit très philosophique de Stephen Dedalus et l'esprit plus pratique, plus réaliste de Bloom.
Oui, quand il marche aussi sur la plage et que la plage devient toute la vie, en fait, où il y a quelqu'un noyé et en même temps une accoucheuse. Donc il y a la vie, la mort, les deux bouts de la vie qui sont là. C'est extraordinaire comment Joyce arrive à dire les choses comme dans un tableau, en fait, à dire des choses philosophiques, finalement.
C'est pour ça que c'est un grand roman sur la condition humaine, qui pose, même si c'est parfois de façon un peu compliquée ou inattendue, les questions qui sont celles de tous et de toutes, sur la vie, la mort, l'amour. Il y a aussi le chapitre tout à fait étonnant qui relate l'accouchement d'un personnage, Madame Purefoy ou Purefoy, et où à nouveau cette question du lien entre la naissance et la mort se trouve posée. Dédalus exprime tout ça dans le langage de la philosophie et même de la théologie, mais Bloom, lui, qui connaît mieux la vie, puisqu'il est déjà bien au-delà du milieu du chemin de la sienne, aborde tout ça de façon beaucoup plus humaine et beaucoup plus simple. Il sait ce que c'est que la vie, il sait déjà ce que c'est que la mort. Et de toute manière, ni l'un ni l'autre n'a de réponse à cette question, et Joyce non plus d'ailleurs. Mais en même temps, il pose ces questions de manière si magnifique que finalement, il nous amène à nous les poser aussi à notre tour.
Et puis pour reprendre le titre de votre livre, Beaucoup de jours, c'est aussi une vie, c'est beaucoup de jours, et on peut dire aussi que cette journée contient toute la vie, tous les jours d'une vie.
La citation, elle vient justement du grand discours dans lequel se lance Stephen Dedalus à la bibliothèque de Dublin.
Sur Shakespeare
Voilà, une sorte d'exposé sur Shakespeare, sur Hamlet. Et à propos de Shakespeare, Joyce, à travers Dedalus, donc explique que c'est quelqu'un qui est l'auteur universel par excellence. C'est ce que disait Borges aussi, citant je ne sais plus qui. Shakespeare ressemblait à tous les hommes, sauf en ceci, qu'il leur ressemblait à tous. C'est bien une remarque à la Borges, ça. Et donc, à propos de Shakespeare, Dédalus dit « Une vie, c'est beaucoup de jours, jour après jour. Nous marchons à travers nous-mêmes, rencontrant, je ne sais plus précisément, des vieillards, des jeunes gens, des amoureux, des géants, des brigands, des rois, c'est-à-dire tous les personnages du théâtre shakespearien, mais toujours nous rencontrant nous-mêmes. » C'est un peu l'expérience que j'ai faite aussi dans ce livre.
Oui.
C'est-à-dire beaucoup de jours, jour après jour, j'ai rencontré des personnages, un publicitaire juif de Dublin, Bloom, un jeune poète, Dédalus, une femme, une épouse, Molly Bloom, une amante, et toutes sortes d'autres personnages aussi, mais à chaque fois me rencontrant moi-même et proposant au lecteur de se rencontrer lui-même à son tour.
Un personnage même qui porte votre nom, c'est pas la vraie traduction, mais qui s'appelle Forrest.
Oui, ça m'a surpris, oui. Il s'appelle Woods dans le roman,
voilà.
Dans le texte original, et je sais pas pourquoi la traductrice a choisi de lui donner le nom de Forrest. C'est un tout petit personnage, c'est un voisin de Bloom, dont la seule chose que nous en dise Joyce, c'est qu'il a une attitude un peu concupiscente à l'égard de sa domestique. Donc voilà, je suis un personnage d'Ulysse. C'est pas le plus grand des personnages du roman, mais c'est déjà pas mal.
Alors, vous avez beaucoup appris cette année-là, cette année d'écriture, à la fois sur vous et sur Joyce, finalement.
Ah oui, c'est pour ça que l'expérience, j'espère qu'elle le sera pour le lecteur aussi, mais l'expérience a été très enrichissante pour moi, de ce point de vue-là. C'est pas rien de passer toute une année avec un livre aussi considérable.
Isabelle Grelle, c'est un peu ce que vous avez voulu en créant cette collection, qui est cette relation forte apportée à la vie aussi, par la littérature, par la lecture d'un livre.
Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment un écrivain devient un écrivain. Donc un écrivain, pour moi, c'était quelqu'un qui a lu des choses et qui est devenu, lui, par souvent, pas seulement par les parents, mais par ses lectures. Et puis ce qui m'intéressait profondément, c'est de savoir pourquoi choisit-on tel écrivain et pas un autre. Et pourquoi celui-ci fait de vous ce que vous êtes, même inconsciemment. Et puis c'est ce qu'on a vu dans cette collection, j'en ai deux autres qui viennent d'arriver... C'est assez dur pour les écrivains d'écrire pendant un an. Il y a souvent un moment de découragement qui vient aussi, qui fait partie du livre. Pourquoi est-ce que je me suis engagée là-dedans ?
Ça fait partie du pacte aussi de mettre ses doutes en circulation.
Et c'est ça qui est passionnant, de voir où vient le moment, à quel moment il y a cette sorte de cassure. Quelque chose où on se dit, mais est-ce que je vais dépasser ceux qui m'ont fait d'une certaine manière ? Ou qu'est-ce que je peux en faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire que ce qu'ils ont fait ?
Et le titre de la collection, le livre La vie, vient de Roland Barthes, d'une petite note qu'il a mise dans son livre RB.
Oui. Donc,
Roland Barthes par lui-même.
Oui, c'était, je crois que c'était la page 78, où il dit, il y a des projets inaboutis que je n'aurais jamais fait. Maintenant, je n'ai plus le temps, j'ai trop de choses à faire. Mais c'est d'écrire quelque chose ou de faire écrire, d'avoir une collection qui s'appelle Le Livre, la vie, où un auteur s'attelle à un autre auteur pendant un an. Je me suis dit, voilà.
Carnet nomade, la vie en jeu sur France Culture, suite.
Il n'y a rien d'autre à retenir. Un jour, la disparition de mon corps dira, considérez bien toutes ces heures lentes et suaves, il y a cru, vous savez, il a aimé ça plus que tout au monde. On fera descendre ce corps sous terre et alors toutes les heures ressurgiront, tel un faisceau de contraste qui inquiétera la planète dans sa rotation et sa folie. Un rayon de lumière agira sur l'anneau des heures, des lieux, du temps, un anneau sans symbole, sans miracle, une figure de géométrie, un idéogramme enfoui et scintillant.
Poursuivons, Jean-Philippe Rossignol, ce carnet nomade avec vous, avec votre vie électrique, et qui est une sorte de roman, puisque c'est écrit sur la couverture, mais qui est en même temps peut-être une promenade, on peut dire, de 30 jours, c'est pas un an avec un livre, ni un jour comme Joyce, le temps d'un jour à Dublin, mais c'est 30 jours avec des hommages à des auteurs que vous aimez, à des lieux que vous aimez, c'est un voyage en fait.
Oui, le voyage s'ouvre par l'Allemagne et par Berlin, où finalement je retrouve une amie, Petra, et nous allons déambuler pour une première nuit dans Prenzlauer Berg, dans Kreuzberg, dans Rosenthaler Platz. Et c'est une façon justement de découvrir Berlin autrement et d'y mener comme ça une sarabande. Et les 30 journées du livre sont pour moi une sarabande romanesque.
Oui, vous dites d'ailleurs, je suis revenue à Berlin pour trouver Ulysse comme Pénélope qui défait sa grande toile, ce thème comme ça du tissage, hein, des jours, des lectures, des émotions, des lieux, des villes que vous aimez, comme si le mouvement maintenant faisait partie de votre vie.
Oui, c'est très juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction pour moi entre la bibliothèque et les voyages, et la peinture et la musique, c'est-à-dire que tout s'entremêle, et c'est pour moi ça aussi l'art romanesque, même si ça peut paraître surprenant. Et donc, je me promène avec Jack Kerouac, je suis avec Italo Svevo à Trieste, je suis aussi dans la peinture de Watteau et son Gilles. Et ça permet comme ça, simplement une peinture, de rentrer aussi à l'intérieur de soi et de faire une recherche qui peut être vertigineuse si on est du côté de l'abîme, mais qui peut aussi être joyeuse si on croit que la littérature est une résurrection, ce que je crois.
Oui, vous dites d'ailleurs, quand vous regardez le Gilles de Watteau, vous dites l'amour et la solitude entrent en scène là aussi,
c'est-à-dire,
et dans
vous. Oui, c'est-à-dire que le personnage de Gilles est aussi un comédien, un chanteur, un nageur, un sprinter, un poète. Et tous ces personnages sont aussi le personnage d'Arlequin, avec tous ces morceaux de tissu rapiécés qui forment son costume. Mais évidemment, cette figure-là, c'est aussi la figure pour moi de l'amour.
Et en même temps, vous apparaissez, vous êtes aussi, il y a votre vie quotidienne, vos amis, vos nuits, vos...
Oui, bien sûr.
Ivresses.
Pourquoi les cacher? Non, le principe était très simple, c'est-à-dire que je voulais que le livre soit du swing. Et ces 30 journées se terminent aussi par le sommeil. Mais quand on a beaucoup dansé, quand on a beaucoup ri, quand on a beaucoup lu, arrive un moment où le corps est épuisé. Et justement, c'est le moment de l'intériorité aussi.
Oui, et puis je ne sais pas, à un moment vous dites, n'oublie pas que tu, vous dites qui je suis à 31 ans,
oui.
Et n'oublie pas que tu n'as jamais été enfant.
Ça, c'est dans ce chapitre où j'exprime exactement ce que je pense et ce que je suis à 31 ans.
C'est dans le 10e jour.
Mais je ne crois pas à cette chose de résurgence constante de l'enfance dans notre vie présente. Je pense que c'est aussi une mythologie.
Et vous aussi, comme Philippe Forest, à un moment, vous rendez hommage à vos musiciennes. Vous appelez ça vos musiciennes. Donc, il y a Sarah Vaughan, il y a Ella Fitzgerald, il y a...
Julia Fischer, la violoniste allemande.
Kathleen Ferrier
oui.
aussi.
Mais c'est-à-dire que dans le livre, les femmes sont présentes, mais je voulais qu'elles chantent. Et c'est pour ça que Sarah Vaughan est présente aussi par une image dans le livre, où elle chante pour le lecteur les yeux fermés. Et pour moi, elles sont cruciales, ces femmes. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois l'impulsion d'un début de journée ou d'un coucher. Elles sont l'érotisme, le désir et la beauté. Oui.
On voit aussi à un moment, vous faites apparaître Valérie Larbaud, qui justement avait fait une préface à Jean de Dublin. Et,
magnifique texte.
Et
oui.
Qui parlait d'Ulysse aussi, Valérie Larbaud.
Mais Larbaud, c'est le grand passeur pour moi du XXe siècle, encore plus que Gide, qui avait une connaissance très profonde des langues et une connaissance aussi de ce que la littérature moderne pouvait apporter. Et puis le personnage en tant que tel, lui, Larbaud, est extrêmement émouvant. Enfin, il suffit de lire son journal ou Aux couleurs de Rome pour s'apercevoir de l'engagement total et en même temps de la discrétion de ce personnage qui s'est retiré, qui avait un corps souffrant et en même temps pas misérabiliste.
Voilà, merci beaucoup alors Jean-Philippe Rossignol pour cette vie électrique et puis ce temps de 30 jours où vous dites qu'il s'est passé quelque chose que vous laissez ouvert entre ce voyage de Berlin qui a ouvert le livre et puis le sommeil qui arrive à la fin avec aussi toute la peinture, les annonciations.
Oui, Fra Angelico et Rorir van der Weyden qui font la clôture de ce livre et en même temps son ouverture, parce qu'on rentre dans la peinture comme on s'échappe aussi.
It cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my name. Cold and wet, tired you bet, but all that I soon forget with my man. He's not much for love, and no hero out of books is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him.
Vous avez dirigé aussi, Philippe Forest, un numéro de la Nouvelle Revue Française, justement intitulé « Je et moi », et qui met aussi cette question hein, du sujet, de l'écart entre le « je » et le « moi ». Voilà, le « je » quotidien, le « moi » intérieur, je ne sais pas, mais il y a plusieurs facettes aussi d'entendre, pour entendre cette expression.
C'est dans le cadre de la nouvelle formule, de la nouvelle formule, de la nouvelle NRF. Donc, et maintenant, c'est Stéphane Audy et moi-même qui nous occupons de cette formule. Et on m'avait demandé de faire un numéro autour de l'autofiction. Et je voulais un peu prendre les choses de manière légèrement différente, d'où le titre « Je et moi » qui est là pour indiquer que l'autofiction, lorsqu'elle est intéressante, ça n'est pas justement un pur exercice narcissique où l'on se contemple soi-même, parce qu'il y a toujours, quoi qu'on fasse, un décalage qui existe entre le « je » qui écrit et le « moi » au sujet duquel celui-ci écrit. Donc, même dans ce face-à-face avec soi-même, qu'est, si on veut, l'autofiction, il y a un dialogue qui s'instaure et qui finit par concerner le monde entier sous ses formes les plus diverses, les plus contradictoires. Donc, c'est cette formule-là que j'ai soumise à un certain nombre d'écrivains qui ont essayé de réagir, soit en parlant de leurs propres livres, soit en proposant des fictions, soit sous forme d'entretien, sous forme d'essai. Voilà. Il y a une citation de Joyce qui permet de faire le lien entre la NRF et le livre La Vie, et donc ces différents ouvrages dont on a parlé. Une citation qui est assez peu connue. Et il déclare à son ami Frank Budgen, Rousseau parlant d'un vol insignifiant qu'il a effectivement commis est beaucoup plus intéressant que Dostoïevski évoquant un assassinat spectaculaire qu'il n'a fait qu'imaginer.
Oui.
Voilà. Et donc Joyce, on peut le prendre avec nous du côté des écrivains du jeu. En tout cas, il revendiquait cette posture-là.
Et j'aimais bien aussi l'anecdote que vous racontez sur la main, la femme qui veut baiser la main de Joyce en disant « je veux
oui, non, c'est mon anecdote préférée. C'est donc après que Ulysse a été publié, il y a une admiratrice qui vient voir Joyce. J'imagine que ça se passe à Paris et elle lui dit « Maître, puis-je baiser la main qui écrivit Ulysse ?» Et Joyce lui répond « Si vous voulez, chère madame, mais je dois vous prévenir, elle a fait beaucoup d'autres choses depuis. » Ça, c'est le côté réaliste de Joyce.
Il y tenait à son réel.
Ah oui, c'est un romancier réaliste.
Carnet nomade, la vie en jeu sur France Culture, suite.
Dès lors que la langue entre en scène, elle rate l'être. Le « je » qui écrit n'est pas le même que celui qui est écrit, puisque ce dernier est fait de mots, patati, patata, d'accord. Mais alors, quel est l'enjeu de l'autofiction? Car il y a bien un enjeu autour de ce « je », non? Sinon, pourquoi revendiquer le matériau autobiographique et l'exploration de l'intériorité, de l'intime, de l'obscène même? L'enjeu, c'est de ne pas séparer l'écrire du vivre, de cheviller la fiction que j'écris à ce qui s'écrit en moi. Pour beaucoup de gens, cela ne doit pas être montré, pas exprimé. Ils en sont restés au fameux dédain de Pascal envers Montaigne. Quel sot projet il a eu de se peindre. Mais au contraire, quelle entreprise de vérité. Et si le moi est haïssable, ce qui n'est pas exclu, autant savoir pourquoi, non? Et si le moi est insaisissable, pourquoi cesser de le poursuivre? Et si je n'existe pas, pourquoi le taire? Oui, sauf que maintenant, tout le monde a le même projet et croit se peindre en se regardant le nombril. Voilà bien ce qui agace le plus dans l'écriture du moi, c'est qu'il n'y a aucune place pour l'autre, aucun nous. Mais au contraire, l'un des aspects les plus intéressants de l'autofiction, selon moi, c'est justement que le lecteur est embarqué, sollicité, presque contraint à s'engager lui-même dans l'aventure littéraire et humaine. On n'est plus dans les grâces vaines de ballerines dont parle Léris, mais dans un vrai rapport au monde et à ses leurs. À travers une subjectivité, certes, mais n'est-ce pas le propre de l'art? Qui a dit « je peins le monde non tel qu'il est, mais tel que je le vois »? Dire « je », affirmer sa subjectivité ne signifie nullement être incapable de considérer le monde, de le réfléchir. Là encore, on confond subjectivité et narcissisme. « Je » fait partie du monde.
Vous avez réussi, Camille Laurence, dans, justement dans ce numéro de la NRF, entre « je » et « moi », à inventer un dialogue que vous appelez un dialogue entre nous et qui montre bien en fait toute la matière qui circule dans vos livres, entre vous et vous, on pourrait dire, ou entre deux vous, deux moi, un je et un moi.
Ben oui, c'est une question qu'on me pose souvent, la différence entre l'auteur et puis le personnage qui dit « je » dans les textes, et puis moi en tant que personne privée. Mais je crois que quand on est écrivain, on ne pose même pas la question. On sait très bien que ce n'est pas exactement la même personne. Donc j'ai imaginé que je me suis limité à deux là pour le dialogue dans la NRF, mais enfin on pourrait imaginer plusieurs personnes qui discutent ensemble et qui sont toutes moi d'une certaine manière, moi et pas moi. Voilà, mais je voulais le faire sous une forme ludique, puisque j'ai mis en exergue la phrase de Borges que j'aime beaucoup. C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires. Parce que je le ressens bien comme ça. Et d'ailleurs, dans Romance nerveuse, j'avais dédoublé la narratrice et puis Ruel, qui était une sorte de double. Et je reprends dans ce texte de la NRF, je reprends un peu ce système-là qui me permet de me décaler par rapport à moi-même et de montrer l'écart qu'il y a entre je et moi.
Entre Camille et vous aussi, voilà. Puisque vous dites d'ailleurs dans ce texte que Camille est un pseudo.
Voilà, c'est pour ça que la sacro-sainte définition de l'autofiction comme un texte où le nom du personnage est le même que le nom de l'auteur sur la couverture, c'est vrai et faux en ce qui me concerne, puisque le nom sur la couverture n'est pas mon nom à moi. C'est un pseudonyme, donc je rajoute une couche supplémentaire, disons, au mystère de l'identité de l'auteur.
Et Laurent, c'est votre prénom, vous l'avez mis en nom.
Voilà, mon premier prénom, celui que m'ont donné mes parents, et puis ensuite j'ai pris ce prénom de Camille, qui était le prénom que mon grand-père avait rejeté, parce que c'était son prénom et qu'il ne l'aimait pas.
Ah oui.
Donc lui, il a pris son second prénom, Marcel. Et c'est quand je l'ai eu choisi que ma mère m'a dit « Mais c'est drôle que tu aies choisi Camille parce que c'était le prénom de ton grand-père. » Mais je ne l'avais jamais connu que sous le nom de Marcel. C'est drôle. Mais Camille, c'était aussi un souvenir de lecture de la comtesse de Ségur, parce que c'est le prénom d'une des petites filles modèles. Et donc, sans doute que je voulais aussi un petit peu faire référence à ces lectures d'enfance.
Et vous dites aussi dans ce texte que justement quand vous avez écrit Philippe, qui est aussi une date très importante dans tous vos livres, c'est presque une rupture ou un commencement, c'était au départ des notes que vous aviez jetées comme ça, et où c'était en L, c'était pas forcément un jeu.
Oui, c'était des notes de survie, donc l'idée n'était pas du tout d'en faire un livre. Là, j'ai vraiment vécu l'écriture comme survie, en fait, comme expérience de la sauvegarde de soi. Et ensuite, j'ai rassemblé, en fait, pour que ça ait forme humaine, en fait, parce qu'il y avait quelque chose de complètement chaotique et désintégré, je pourrais dire, dans ces petits bouts des petits fragments, pour ne pas mourir. Et c'est seulement après que ça s'est rassemblé et que ça a fait ce livre.
Oui, j'ai appelé ce carnet « La vie en jeu », J-E, mais c'est aussi la vie en jeu, c'est justement la littérature qui vient sauver quelque chose de la vie ou recoller des morceaux.
Oui, c'est-à-dire que là, c'était la première fois que je disais « je », en fait, vraiment en assumant quelque chose de mon identité personnelle. C'est lié, comme souvent, je pense, dans le passage à l'autofiction, c'est donc pour moi très lié à un chagrin, à une douleur, à une blessure très, très grande. Pour autant, Enfin, Philippe, c'est un petit peu à part, mais les romans que j'ai écrits ensuite, je ne les considère pas comme la simple expression d'un jeu obnubilé par lui-même. Pour moi, c'est toujours une construction architecturale à partir d'un centre qui serait ce que Proust appelle le livre intérieur, une expérience de soi, qui ensuite est recomposée. Mais bon, Philippe, c'est vrai que c'est un peu à part parce que il y a très peu de composition. Ça n'est pas un roman, ça n'est pas non plus une autofiction, c'est un récit.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle, c'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin, et quand tu voudrais tu n'as pas d'amour pour elle. Elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur.
Carnet nomade, la vie en jeu, suite, avec Philippe Forest, toujours autour de son livre Beaucoup de jours, d'après Ulysse de James Joyce, et le chapitre 11, Les sirènes, pot-pourri, sentimental. Dans le chapitre 11, Philippe Forest, que vous avez appelé les sirènes, et qui se réfère justement aux sirènes dans Homère. Et vous faites un éloge de la musique, des chansons, de toutes les chansonnettes aussi, ou les belles chansons. C'est très important aussi.
C'est un romancier populaire aussi, Joyce. C'est-à-dire il adorait l'opéra, il avait une très belle voix, il aurait pu être chanteur d'opéra. Je raconte une anecdote qui est très émouvante que j'ai apprise en écrivant ce livre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est à la Baule, je crois, et donc la guerre vient d'éclater. Il y a des soldats français et anglais qui entonnent la Marseillaise, et Joyce se joint à eux, et sa voix est tellement superbe qu'on le hisse sur une table pour qu'il guide en quelque sorte la chorale de ses soldats. Donc ça me fait penser un peu à la scène de la Marseillaise dans Casablanca avec Bogart, ou la même scène à peu près dans La Grande Illusion avec Gabin. Donc il chantait très bien. Il aimait pas tellement Wagner, il préférait Verdi. C'était sa femme Nora qui était une grande admiratrice de Wagner. Mais il adorait aussi la chanson populaire. Et il y a cette dimension-là de culture populaire qui est très présente dans Ulysse. Mmh. C'est Céline qui dit qu'il donnerait tout Proust pour deux chansons de Bruant. Mmh. Voilà. À mon avis, Joyce est plus près de Céline que de Proust de ce côté-là.
Vous posez vraiment la question aussi par ce traitement de Ulysse, par votre propre expérience quotidienne ou réflexive, justement de cette phrase où vous dites l'infinie possibilité des possibles, comme si le roman était toujours l'infinie possibilité des possibles.
Et c'est quelque chose que j'avais questionné sans me rappeler vraiment que ça venait de Joyce dans mon dernier roman, Le ciel des nuages. Oui, il y a toute une méditation comme ça sur le virtuel, le pluriel. Ça vient de chez Aristote parce que Joyce avait beaucoup lu Aristote. Donc l'opposition entre l'actuel et le virtuel, on la trouve dans la métaphysique d'Aristote. Mais ça prend une forme très différente. Sur chaque personnage, très concrètement, on vient à rêver sur ce qu'aurait pu être sa vie. Et notamment, c'est très pathétique dans le chapitre qui s'intitule Les Lestrigons, qui est un chapitre dans lequel Bloom est tout bêtement à la recherche d'un restaurant. Mais il se promène sur les quais à Dublin, sur le long de la Liffey. Et du coup, il y a une image très banale qui s'impose à lui. C'est celle du fleuve de la vie. Comme selon la formule héraclitéenne, le fleuve dans lequel on ne se baigne jamais deux fois. Et il essaye de penser à ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait pris un autre cours. Et il s'interroge sur sa propre identité. Est-ce que je suis moi aujourd'hui ou est-ce que j'étais moi autrefois?
Oui.
Et si je suis moi aujourd'hui, alors celui que j'étais autrefois n'est pas moi. Mais alors qui était-il? Ou alors, si c'est le contraire, qui suis-je moi aujourd'hui? Et c'est très beau dans le livre.
C'est un de vos chapitres préférés.
Oui, oui, à cause de ça, parce que ça renvoie à quelque chose qui m'est assez cher, c'est-à-dire une sorte de méditation sur le caractère très incertain de sa propre identité. Ce qui est paradoxal, puisqu'on branche toujours dans le clan des auteurs d'autofiction, mais moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas trop à l'identité personnelle. C'est mon côté japonais, peut-être, penser que le moi est un mirage, en quelque sorte. Et c'est ce mirage du moi qu'on voit se défaire, notamment dans ce chapitre-là.
Oui, il y a une chose aussi, quand vous dites que l'amour défait aussi, que vous citez Alouche, je crois, un psychanalyste, c'est un passage sur le masochisme.
Oui.
Et vous dites qu'il y a un plaisir comme ça à être défait aussi, comme l'amour, comme un drap défait.
Oui, Alouche, dans un de ses livres, Alouche, qui pour moi est une référence qui compte dans le domaine de la psychanalyse actuelle, Alouche pose l'idée qui semble un peu scandaleuse et un peu absurde, mais qui me semble très juste, que toute jouissance est masochiste dans la mesure où c'est... Par la jouissance, ce qu'on cherche, c'est une sorte de défaite. Et Alouche dit une défaite à la Pyrrhus, ou une victoire à la Pyrrhus plutôt. Et c'est curieux, parce que cette expression de victoire à la Pyrrhus, elle est présente aussi dans Ulysse. Et il y a très visiblement un masochisme de Joyce, pour autant qu'on puisse le savoir d'après les confidences qui concernent sa vie privée et sa vie sexuelle. Puis ça éclate vraiment de manière très forte.
Dans ses lettres aussi.
Ses lettres, et dans ce chapitre qui est vraiment une sorte de gigantesque cauchemar masochiste qui occupe près d'un quart du livre.
Alors, on ne peut pas traverser tous les chapitres parce qu'il y en a 18, mais c'est vraiment une lecture extraordinaire, assez envoûtante, hein, fois de ce que vous avez mis de vous et puis de la vision du roman même. Mais il y a ce très beau chapitre aussi sur Pénélope, bien sûr, qui est Molly Bloom et qui est... dire l'acmé du roman.
Ah oui, c'est le morceau de bravoure. Je dis dans le livre, et je le crois sincèrement, chaque fois que je le relis, c'est un passage lorsqu'on doute un peu de la littérature, et ça nous arrive à tous. Quand on relit ce dernier chapitre, ben on est confronté à quelque chose qui est d'une beauté si envoûtante et si sidérante, qu'on se dit que malgré tout, parfois, ça vaut la peine un livre. C'est ce que Borges dit dans un poème aussi que je cite au début du livre. Il dit « Qu'importe si nous avons été défaits, qu'importe si nous avons été insuffisants par rapport à la littérature, il y a eu au moins quelqu'un qui est allé au bout de ce que celle-ci peut apporter, et ce quelqu'un c'est Joyce, et particulièrement donc dans ce chapitre. C'est une sorte de monologue magnifique, donc sans ponctuation, ça fait, je ne sais pas, 40 pages, quelque chose comme ça, et ça retranscrit les pensées de Molly Bloom entre le rêve et le réveil.
Elle est un peu ensommeillée encore.
Elle revisite dans sa mémoire toute l'histoire de sa vie, et particulièrement toute l'histoire de ses amours, et le texte se trouve scandé par le mot « yes », oui, qui revient et qui, façon très poétique, porte sur un mode cadencé cette pensée en train de se constituer. C'est très beau et c'est très profond aussi, je trouve.
Puis c'est très beau que Joyce ait voulu donner la parole à une femme, en fait, à la fin de cette grande traversée, ce grand voyage.
Oui, moi j'aime bien les livres qui donnent le dernier mot à une femme, enfin les livres d'hommes qui donnent le dernier mot à une femme. D'autant plus que c'est un dernier mot qui, en quelque sorte, annule tout ce qui a été dit auparavant. Cette révélation dont le monologue de Molly Bloom est le lieu, elle échappe aussi bien au poète Stephen Dedalus qu'au publicitaire Léopold Bloom. Eux n'entendent pas ce « oui ». Et c'est le lecteur peut-être qui l'entend et l'auteur qui le prononce pour lui-même et pour nous par voie de conséquence aussi.
Et là encore, on peut retrouver des livres que vous avez écrits. On a parlé de L'Enfant éternel, on a parlé de Sarina Gara et du Siècle des nuages, mais il y a aussi Le Nouvel Amour.
Oui,
qu'on peut retrouver aussi à travers
aussi, oui. J'ai essayé de faire en sorte que tous mes livres soient des livres dans lesquels le dernier mot appartenait à une femme. Voilà. Et c'était sûrement dans le souvenir de Joyce aussi. Non, c'est un grand livre d'amour.
Oui, c'est la, c'est, en fait, c'est l'amour qui a le dernier mot.
Il y a une question que se pose Stephen Dedalus tout au long du livre, c'est quel est ce mot que tous les hommes savent ? Et il est en quête d'une sorte de sésame un peu philosophique qui lui révélerait le sens ultime de la vie. Donc il se pose à lui-même cette question lorsqu'il erre sur la plage de Sandy Mount et qu'il réfléchit sur le mystère sexuel de ses propres origines. Et puis après, au plus profond de la nuit, lorsqu'il est dans le bordel de Bella Cohen, le fantôme de sa propre mère lui apparaît. Déjà en état de décomposition, parce qu'il y a aussi cette question du deuil maternel qui est très forte dans Ulysse. Et Stephen dit à sa mère, au fantôme de celle-ci, « Mère, maintenant que tu le sais, dis-le-moi quel est ce mot que tous les hommes connaissent. » Et bien sûr, elle ne le lui révèle pas. Et moi, j'ai toujours pensé que ce mot que tous les hommes savent, et que donc ni Stephen ni Bloom ne vont entendre, c'est le mot justement par lequel se termine le monologue de Molly. Oui, tout simplement, c'est un mot d'assentiment à la vie, au désir.
Et qui éclaire du coup tout le livre. C'est à la fin du livre qu'on peut regarder de loin comme ça, le début du livre et le livre dans son entier. On pourrait peut-être lire un passage qui est la fin, en fait, du monologue de Molly. « Oh, et la mer cramoisie, quelquefois comme du feu, et les couchers de soleil en gloire, et les figuiers dans les jardins d'Alameda, oui, et toutes les drôles de petites ruelles, les maisons roses, bleues, jaunes, et les roseraies, les jasmins, les géraniums, les cactus, et Gibraltar quand j'étais jeune, une fleur de la montagne, oui, quand j'ai mis une rose dans mes cheveux, comme le faisaient les Andalouses, où devrais-je en mettre une, rouge, oui, et comment il m'a embrassée sous le mur des morts, et j'ai pensé bon, autant lui qu'un autre, et puis j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore, oui, et puis il m'a demandé si je voulais, oui, de dire, oui, ma fleur de la montagne, et d'abord je l'ai entourée de mes bras, oui, et je l'ai attirée tout contre moi, comme ça il pouvait sentir tout, mes seins, mon odeur, oui, et son cœur battait comme un fou, et oui, j'ai dit oui, je veux, oui, yes, I will, yes, c'est difficile de lire.
Ah, c'était
oui.
Très bien lu.
de placer le oui, parce qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a rien.
Mais le texte est tellement bien cadencé, et même dans la traduction française, qui est très belle, je trouve. Ce que j'aime bien dans ce passage, c'est parce que donc Molly Bloom se rappelle le premier baiser échangé avec celui qui allait devenir son mari. Ce que j'aime beaucoup, en termes de psychologie féminine, c'est après tout, aussi bien lui qu'un autre. Et c'est très ironique, parce qu'en fait, c'est Joyce qui raconte sa propre rencontre avec celle qui allait devenir son épouse, mais du point de vue féminin.
Oui.
Donc en tournant en dérision sa propre posture d'homme. C'est-à-dire un homme, c'est toujours quelqu'un qui pense qu'il ne pouvait y avoir que lui. Et c'est peut-être pas forcément la manière dont la partenaire féminine se représente la chose. Parce qu'il faut se rappeler que le 16 juin 1904, qui donc devient une sorte de date anniversaire dans l'histoire de la littérature, c'est le jour où Joyce a rencontré celle qui allait devenir son épouse, Nora Barnacle. Et c'est pas un geste, si on est un peu sentimental comme je le suis, c'est pas un geste totalement anodin que de marquer comme ça le moment d'une rencontre amoureuse en construisant ce qui va devenir un des grands monuments de la littérature mondiale. C'est quand même extraordinaire de réussir à faire rentrer une date dans le calendrier universel comme ça.
La dernière scène de ce carnet nomade avec Chloé Delhomme, que j'avais rencontrée à la Villa Médicis, et dans cet après-midi de septembre, elle nous avait lu un passage, le début en fait de son roman, d'un roman qui paraîtra en janvier au Seuil dans la collection Fiction et compagnie, et c'était adressé à la mère d'une jeune fille qui s'était suicidée après avoir lu un livre de Chloé Delhomme. Et Chloé nous disait qu'elle avait beaucoup de courriers de ce genre, donc elle a commencé sa lecture.
Alors, ça s'appelle Une femme avec personne dedans. Ça, c'est le chapitre premier qui s'appelle Psyché Écho. Vous êtes Chloé Delhomme, voix sans âge et femelle légèrement anguleuse au creux du téléphone. Isabelle Bordelin, ça vous dit quelque chose? Un blanc, quelques secondes. Ça vous dit quelque chose? J'identifie enfin. Une lectrice des échanges le mois précédent. Une histoire déplaisante, j'aimerais mieux oublier. Elle s'est suicidée avant-hier. Isabelle Bordelin. Elle m'avait envoyé un mail pour se présenter. Elle disait donc bonjour et également je suis. Des riens m'avaient gêné déjà, des adjectifs, quelques tournures, des livres et des chansons. J'avais la sensation d'être face à un miroir déformant, très commun et fait grossissant, chaque travers alourdi. Des riens m'avaient gêné au point qu'il me semblait pratiquement impossible qu'une telle personne existe, un corps réel, une pensée, un langage quelque part dans le réel. C'était moi, mais craché en un glair venimeux. J'ai hésité longtemps à lui répondre. D'ailleurs, je n'ai pas répondu. Je redoutais une blague infecte, une sorte de piège tendu en sous-sol parodie, macabre, sordide la parodie. Il y avait eu ses textes, ensuite son manuscrit, un décalque malsain de mes trois premiers livres, une syntaxe hachée violine, papier carbone, sa langue qui annonnait les stigmates de la mienne à m'en provoquer le haut-le-cœur. En dépit de, malgré son infinie souffrance. J'ai montré ses écrits chez tous, même ressenti, sa douleur n'avançait qu'en pantomime masquée par métiques et grimaces, non plus un geste ici, mais gesticulation. Je ne me souviens plus de la raison exacte, de ce qui m'a poussé à lui téléphoner. Une vraie ambivalence, pulsion de face à face, voir ce qu'elle avait dans le ventre hors de ce simulacre. Comprendre aussi, comprendre, qui pouvait à ce point être devenu aphone pour se greffer fil blanc au vif des cordes vocales, mes polypes étrangers. Je pensais qu'elle était très jeune, pas de voix propre et au fond très peu de référents. Tous communs, cela va de soi. Je lui ai dit, vous êtes très jeune, vous avez le temps de vous trouver, si vous voulez que je vous aide, il vous faudra beaucoup travailler et cesser d'aspirer mon ombre. J'ai compris que c'était foutu quand elle m'a répondu « Demain, je fête mes 37 ans. »
C'est la fin de ce carnet nomade La vie en jeu. Merci à vous, Chloé Delhomme. Merci à Philippe Forest pour Beaucoup de jours d'après Ulysse de James Joyce aux éditions Cécile Defaux dans la collection Le Livre, La Vie, dirigée par Isabelle Grelle. Merci également à Jean-Philippe Rossignol pour Vie électrique chez Gallimard dans la collection L'Infini et à Camille Laurence pour son texte dans la NRF Je et moi, un numéro dirigé par Philippe Forest. À signaler également Romance nerveuse, qui est parue en folio de Camille Laurence, d'Arnaud Catherine Nos vies romancées, c'est chez Stock, et puis une exposition de Gisèle Freund, portrait d'artiste à Saint-Germain-des-Prés, à la galerie Lucivel et Seligman, c'est au 6 rue Bonaparte. Carnet nomade, Pierrick Charles à la technique, Thierry Beauchamp à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellouz, rendez-vous samedi prochain pour un carnet intitulé « Femme, femme ». Très bon week-end à tous.